Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici RDWA pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr et aussi sur les ondes FM en 107.5. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Philippe Levenberg. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Levenberg, vous êtes le président du collectif de défense de l'hôpital de Die et vous êtes ici pour nous annoncer un peu cette journée qui va avoir lieu le 2 mars à Die. Concernant une marche en hommage à la perte de cet enfant.
À qui on n'a laissé aucune chance.
Il va y avoir un rassemblement prévu, donc à partir de 11h, samedi matin, devant les portes de l'hôpital, c'est ça ?
C'est ça. Alors, c'est un rassemblement qui a été voulu et demandé par les parents de cet enfant décédé à Montélimar lundi dernier. Qui a été relayé par le collectif de défense et auquel on a associé aussi les parents d'un enfant qui est né au bord de la route une semaine avant. Donc l'actualité s'est précipitée la semaine passée avec tout ce qu'on craignait depuis plus d'un an et depuis toujours même, depuis qu'on défend l'ouverture, enfin le maintien de la maternité et de la chirurgie.
Actuellement, les médias se bousculent sur le DIWA pour connaître un petit peu la teneur de cette triste histoire, je dirais. Est-ce que c'est un peu dommage que les médias se déplacent uniquement dans ce cas, alors que quand même les cris d'alarme étaient lancés depuis des années ?
Bon, là, c'est un grand débat sur les médias, la façon dont ils traitent l'actualité. Il y a des médias quand même qui nous avaient contactés un peu avant que cet événement arrive, pour savoir, pour connaître un peu le bilan d'un an de sans maternité dans le DIWA. Voilà, on avait peu de retours des gens, quelques retours. Avec cette actualité qui revient, c'est bien que les médias reviennent aussi. Ça fait réagir la population, ça fait réagir les gens. On a beaucoup de témoignages qui nous arrivent, finalement, de gens qui disent « Mais finalement, c'est vrai que c'est pas si confortable que ça ». C'est vrai que j'ai stressé deux fois pendant une heure de voiture, une heure et demie de voiture avec ma femme. C'est vrai que j'ai accouché, enfin, oui, des femmes ont accouché deux minutes après être arrivées à Montélimar ou à Valence. Que des papas ont roulé à 150 km/h pour arriver jusqu'à Montélimar. Voilà, il y a des langues qui se délient, il y a des choses qui se disent. Et bon, c'est vrai que l'événement aussi nous touche beaucoup dans le DIWA, la population. Et c'est aussi un événement de portée nationale parce que. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, souhaite fermer d'autres maternités. Donc le 22, 23, 24 mars, je serai au Blanc, dans l'Indre, donc un autre territoire très éloigné et de plus en plus éloigné parce que les services publics ferment les uns après les autres. Madame Buzyn veut fermer la maternité, elle veut fermer la maternité de Dinan, elle veut fermer à Creil, 1600 accouchements. Elle veut fermer partout en France des maternités, donc on sera plus de 10 collectifs là, qui sont menacés ou qui ont été fermés. Et du coup, cet événement, ça met en avant le fait que, au-delà de tous les discours et des promesses de l'Agence régionale de la santé, l'ARS, la réalité, ben, elle est sévère, elle est dure. On peut mettre en place des protocoles, mais si les humains, si les moyens financiers, si les moyens humains ne sont pas là, les protocoles, ils servent à rien, quoi.
Ces protocoles ont été établis donc par le corps médical et puis les responsables de l'ARS, je suppose, ou du ministère de la Santé. Mais est-ce que ces protocoles sont établis avec une étude objective du terrain ou alors tout se fait juste derrière quelques boiseries ?
Alors, nous, vu ce qu'on constate déjà de la réalité des témoignages qu'on a eu des parents, là, et ce qu'on constate tout au long de l'année, et des textes que nous fournissent l'ARS, puisqu'on les a mis au tribunal, et ça les oblige à répondre. Ce qu'on constate, c'est quand ils nous disent, par exemple, les médecins correspondants SAMU sont formés à l'urgence obstétricale. Et en fait, ils ferment la maternité en nous disant ça, et au mois de mai, donc 5 mois plus tard, ils organisent une formation de quelques heures à l'urgence obstétricale. Et le jour où on aurait besoin de ces médecins correspondants SAMU qui sont sur le DIWA et qu'il faut saluer. Il faut bien comprendre que les médecins correspondants SAMU font un très bon travail. Le problème, c'est que si l'Agence régionale de la santé n'organise pas l'appel téléphonique qui permet à ce médecin de savoir qu'il y a quelqu'un en situation d'extrême urgence, parce que là, on était dans une extrême urgence, à côté de chez lui, et ben le médecin correspondant au SAMU, il ne se déplace pas. Voilà, donc tout est fait comme ça, au doigt mouillé. On nous a dit, il y a un hélicoptère qui vole de jour, de nuit. Voilà, finalement, il est arrivé au mois de septembre, plusieurs mois plus tard, après la fermeture. Et cet hélicoptère, et ben, ce jour-là, ce lundi soir, malheureux lundi soir, cet hélicoptère, il était pris par une urgence cardiaque, apparemment, en Ardèche. Donc il a d'abord réglé son problème en Ardèche, ensuite il est retourné sur Valence, il a chargé une sage-femme qu'il a ramenée à Die. Voilà, la sage-femme est arrivée à 21h45, le premier appel était à 19h45, donc plus de 2 heures plus tard. Tout ce temps-là, personne n'a touché le ventre de la maman, n'a essayé de faire un diagnostic sur le bébé pour savoir où il en était. Personne n'a été capable de prendre en charge cette femme, en fait. Voilà, donc d'ailleurs, cette femme, Céline, nous a envoyé un témoignage écrit. Je veux dire, il est difficile à lire, quoi. Il est très dur à lire. Très, très dur à lire. Il est magnifique, mais voilà, il est très dur à lire. Il raconte tout ça. Donc, ces protocoles, ils se font peut-être derrière des boiseries. Mais voilà, en tout cas, ils ne tiennent pas compte de la réalité, quoi.
Pour cette journée qui s'organise à partir de 11h, il y aura une marche dans les rues de Die, en commençant par la rue Buffardel, et puis un passage certainement sur le marché, peut-être ?
Passage sur le marché devant la préfecture, devant la sous-préfecture. On ne va pas demander de rendez-vous au sous-préfet, puisque la dernière fois qu'on a manifesté, on lui a demandé un rendez-vous. On lui avait même, par mesure de prudence, puis par... diplomatie, transmis les questions qu'on voulait lui poser avant. Et ces questions, c'était justement tous ces protocoles, là, tous ces petits bouts de protocoles, on voulait les savoir plus précisément. Il n'y a jamais répondu et il a refusé de nous recevoir. Alors cette fois, nous, on va pas aller le voir. Enfin, on voit pas l'intérêt de poser des questions à quelqu'un qui va nous faire de la langue de bois. On a vu le communiqué de l'Agence régionale de santé, du ministère de la Santé. En fait, tout s'est bien passé pour eux. Il y a un mort à la sortie, il y a des dysfonctionnements tout le long, mais tout s'est bien passé. Donc si c'est pour entendre ça, non, on va montrer au sous-préfet voilà, que la population d'Ivoise, elle est là, elle est digne. Elle doit être, je pense, vu ce que j'entends autour de moi, très en colère. Et puis on verra ce que les services de l'État feront, quoi.
Ce drame implique aussi... une pseudo-responsabilité, je pense, morale des personnes qui ont été les acteurs de ces deux drames, de ce deuxième drame, je dirais plutôt. Est-ce que vous avez des contacts avec ces personnes qui sont du service hospitalier et qui se sont retrouvées complètement démunies ? Quel est leur sentiment ?
Alors, on n'a pas de contact directement avec eux. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas rejeter la responsabilité sur des personnes, sur un sapeur-pompier, sur une infirmière, sur la sage-femme, sur le pilote d'hélicoptère. Moi, je pense que tous ces gens-là, ils n'y peuvent rien. Il y en a une qui faut qu'elle prenne ses responsabilités. C'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui, une semaine avant à la radio, critiquait les élus locaux et les collectifs locaux en disant que eux ne portaient pas la responsabilité des morts en cas de fermeture ou en cas de maintien, etc. Et qu'elle, elle seule, ministre, portait la responsabilité. Donc, il n'y a que la ministre de la Santé, et en l'occurrence aujourd'hui, en plus, elle l'assume complètement, qui porte la responsabilité. Le personnel, je veux dire, ils font partie d'un système, d'une organisation, et si cette organisation, elle n'existe pas, enfin, si le protocole n'a pas pris en compte que, par exemple, les médecins correspondants SAMU, on l'a appris après, ce jour-là, ils n'étaient pas de garde. Bon, l'ARS, l'Agence régionale de la santé, annonce qu'on pourra s'appuyer sur les médecins correspondants SAMU. Elle oublie de penser que tel jour, ils ne sont pas de garde. Or, c'est l'exception qui fait l'accident, quoi. L'hélicoptère, il sera disponible 24 heures sur 24, sauf s'il est ailleurs. Eh bien, pas de chance, il était ailleurs. Donc, la deuxième exception. Le brancard des sapeurs-pompiers, il s'ouvre toujours dans le bon sens, sauf ce coup-là, où il faut un tournevis pour le remettre en marche, etc., etc. Le médecin urgentiste qui n'a pas les clés du centre périnatal, c'est dommage. C'est quand même pas compliqué d'avoir une paire de clés au service des urgences pour accéder à du matériel de qualité. Même si il semble qu'il valait peut-être mieux envoyer cette femme à Montélimar pour se faire opérer très rapidement, ce qui n'a pas été fait.
Je reviens sur mon propos quand je parlais de responsabilité. Je voulais surtout dire de sentiment de culpabilité. Et ah bah... ça, ça peut miner aussi la personne qui peut être... elle peut être même pas incriminée, mais c'est un sentiment qu'elle doit certainement vivre aussi quand même, je pense.
Bon, il faudra leur poser la question directement. Je pense qu'effectivement, ils doivent pas être à l'aise. On n'est pas dans une position... facile. Enfin, moi, je m'associe à l'ensemble du personnel hospitalier et des secours qui ont pris en charge cette femme. Voilà, je n'aimerais pas vivre leur moment, quoi.
Ensuite, rassemblement final qui aura lieu place de la Comtesse, avec certainement des interventions et puis des prises de parole, je pense, pour exprimer cette colère.
Alors, des prises de parole, c'est sûr, je pense qu'il y en aura devant la sous-préfecture pour que les services de l'État nous entendent. Mais ensuite, il faut qu'il y ait des prises de parole de tout un chacun, des témoignages de femmes qui ont peut-être accouché normalement, pas normalement, de parents, de futurs parents. Enfin, la parole est ouverte à tous. C'est important de pouvoir parler dans ces moments-là. La demande et la volonté des parents de cet enfant décédé, c'était qu'il y ait... un rassemblement, que les gens soient ensemble, qu'ils prennent la parole et qu'on danse. Voilà. Donc c'est monter que la vie reprenne le dessus quand même, parce que c'est un événement tragique, très dur, et la vie doit reprendre le dessus. Ses parents, ils ont une énergie incroyable. Enfin voilà, il faut admirer ses parents et leur énergie qui ont envie que la vie reprenne le dessus et qui organisent cette marche blanche pour leur enfant aimé qui est décédé. Et pour que ça ne se reproduise pas, espérons que ce soit la première et la dernière marche blanche qu'on organise. Enfin, c'est ça l'idée, quoi.
Et pour ça, c'est-à-dire de porter la parole au-delà du territoire d'Iwa pour prévenir ce cas ou ce genre de problème. Est-ce qu'il s'établit petit à petit une fédération au niveau national de tous ces collectifs de défense?
Alors, il y a une coordination nationale des collectifs de défense des hôpitaux. On est tous en contact. Ils ont tout de suite envoyé des messages de soutien aux DIWA. Moi, je les cite régulièrement. Le 23-24, je ferai le déplacement au Blanc, dans le centre de la France, pour m'associer aux maternités qui sont en danger ou à celles qui vont fermer, pour voir ce qu'on peut faire. Parce que le baratin, on peut dire comme ça, hein, le baratin de la ministre de la Santé est le même de partout. Alors nous, on a eu droit, peut-être parce qu'on était la plus petite maternité de France et qu'il y avait eu 30 ans de lutte, à la promesse d'un nouvel hôpital, qu'on voit mal à quoi il pourrait servir. Mais les autres, en gros, on leur promet de remplacer la maternité par un centre périnatal et que tout ira bien. On leur promet qu'il y aura un hélicoptère, on leur promet qu'il y aura des transports, on leur promet exactement la même chose que ce qui a été promis ici. Sauf que derrière, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas... voilà. Donc... la solidarité nationale, elle est nécessaire et obligatoire. Sinon, il y a peu de chances qu'un jour, dans le Diwa, on retrouve un service public de qualité, un service public de santé équivalent à ce qui existait l'année dernière.
On peut déplorer aussi cette opacité avec ce nouvel hôpital dont on ne sait pas grand-chose pour le moment.
Alors, moi, j'ai eu par le couloir, par la bande, on va dire, un projet d'établissement, j'ai oublié les dates, mais 2018-2023, quelque chose comme ça, où sur 90 pages, il y avait deux pages sur ce nouvel hôpital. Quand j'ai fait le total, on a compté avec une amie infirmière le nombre de lits, on tombe un tout petit peu au-dessus de 40 lits pour ce nouvel hôpital. Évidemment, sans maternité, sans chirurgie, avec un super scanner, mais on ne sait pas s'il y aura les moyens humains pour le faire fonctionner, comme actuellement d'ailleurs. On ne sait pas trop comment cet engin fonctionne et quand est-ce qu'il fonctionne. Il faudrait que l'ARS nous réponde.
Il fonctionne pour moi, j'ai eu l'utilisation. Voilà. Hein.
Mais tu fais partie des chanceux, alors, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés qui n'ont pas eu le droit d'avoir...
Étonnamment, en plus, ils m'ont fait passer le scanner pour un cas qui n'était pas forcément nécessaire. Voilà.
Bon, bah, écoute, tu as eu de la chance. Voilà. Mais ce nouvel hôpital, du coup, moi j'avais posé la question au conseil communautaire, 3 hectares de terres agricoles pour 12 millions d'euros, pour refaire une quarantaine de lits, peut-être un peu plus, enfin qu'on nous réponde clairement, qu'est-ce qui justifie de fabriquer un nouvel hôpital? Est-ce que les 12 millions d'euros on ne pourrait pas les mettre sur l'hôpital existant actuellement? Est-ce qu'on continue à vider le centre-ville de ses services publics et ensuite à déplorer que le centre-ville s'écroule et ne vive pas? Enfin bon, il y a des choses à l'hôpital actuel, par exemple, de mettre des rideaux ou des volets, c'est quand même pas un truc faramineux. On sait aller sur Mars, on sait pas mettre des volets à l'hôpital de Die. Il paraît-il qu'il y aurait eu un plan de rénovation, un projet, en tout cas un devis à 9,7 millions. Bon, entre 12 et 9,7 millions, on fait quand même une sacrée économie. Donc on a un hôpital qui fonctionne. Enfin voilà, rien ne se justifie pour nous, de notre point de vue, pour fabriquer un nouvel hôpital si la sécurité des patients n'est pas assurée en attendant.
Moi qui suis dans le bâtiment, j'ai travaillé dans le bâtiment, je le trouve tout à fait conforme encore, cet hôpital. Peut-être un réaménagement intérieur ou de décoration, mais c'est tout.
Oui, c'est évident qu'il y a des choses à faire dans cet hôpital, il y a de l'entretien, il y a des choses qui ont tardé. Jean-Pierre Rambaud, qui est hospitalisé aujourd'hui d'ailleurs, me disait on avait lancé en 95 trois tranches de travaux. Il y a des tranches de travaux qui ont été faites, d'autres qui n'ont pas été faites. On a fait l'électricité, le désenfumage dernièrement, 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros. Pourquoi on fait des travaux d'aménagement si c'est pour fermer cet hôpital qui sera difficile à transformer en logement ou en maison associative ou autre chose vu la configuration des locaux quand même?
Une question naïve, en quoi la population est associée justement à la conception de ce nouvel hôpital?
Ben alors là, il faudra poser la question à monsieur le maire de Die et puis au directeur de l'ARS. Parce que pour l'instant, je crois qu'on n'est pas nombreux à avoir entendu parler de ce nouvel hôpital. Enfin, à part dans les promesses de l'ARS, mais sur la construction, sur... est-ce que les Diois sont d'accord pour qu'on prenne encore 3 hectares de terre agricole pour construire un nouvel hôpital? Donc on bétonise à nouveau. Pour quelles raisons? Enfin voilà, même le personnel hospitalier, je ne suis même pas sûr qu'il soit au courant qu'il y ait ce projet et de quelle façon il avance, quoi.
Hormis le samedi 2 mars, pour cette journée de cette marche, est-ce que vous prévoyez d'autres événements ou d'autres rendez-vous?
Je pense qu'il y aura des prises de parole le 2 mars et qu'on prendra ensemble les décisions qui s'imposent pour voir s'il y a d'autres rendez-vous, si on demande un rendez-vous au sous-préfet ou au préfet, bien qu'on n'y croit pas trop, ou si on organise d'autres actions, sur d'autres modes d'action, peut-être plus ludiques, plus revendicatifs. Je ne sais pas, ça se construit toujours ensemble, et ce n'est pas moi tout seul qui vais le décider en tout cas.
Le collectif donc de défense de l'hôpital est toujours là. Il y a moyen de vous joindre ou de pouvoir vous rencontrer?
Alors, le mail collectif hôpital die26@gmail.com et nous retrouver en envoyant un mail, oui, on se retrouve très facilement. Et on a un blog qui est collectifhôpitaldie.org avec les derniers communiqués, les dernières informations, tout est sur le blog.
Face à cette décrépitude de santé sur le territoire, quels sont les recours de la population actuellement?
Je crois qu'il faut faire remonter notre mécontentement, parler, s'exprimer, faire savoir quand il y a un problème, parce que s'il y a un problème et qu'on ne le fait pas savoir publiquement, je veux dire, on ne pourra pas faire changer les choses. Et puis après, oui voilà, les modes, les pétitions, les manifestations sont toujours des modes d'expression autorisés en France, heureusement. C'est pour l'instant les seuls moyens qu'on ait pour se faire entendre, quoi.
Et actuellement, au niveau des instances officielles, que je parle de celles de l'ARS ou le comité de suivi de l'hôpital de Die qui existe là, dont le maire est président?
Alors le comité de suivi, oui, il y a un comité de suivi, c'est pareil, si vous pouvez répondre à la question comment la population y est associée, parce que nous on est collectif de défense de l'hôpital depuis 33 ans, on n'est pas associé et on ne sait pas ce qui s'y passe. On l'apprend par les communiqués de l'ARS qui d'ailleurs nous dit que tout va bien, donc comme on a pu le constater la semaine passée. L'ARS d'ailleurs, il est dans un silence, un mur de silence là, incroyable depuis une semaine. Pas une information, pas un mot. On a la députée qui a contacté aujourd'hui la famille de l'enfant décédé pour lui dire qu'elle était disponible. Bon, elle a envoyé un message sur Facebook il y a plusieurs jours, avec quand même beaucoup de retard, pour dire qu'elle avait transmis ses coordonnées à la famille, qu'elle avait fait savoir qu'elle était disponible, en fait, c'était un gros mensonge. Bon, entre les mensonges de la députée et ceux de l'ARS, je dois dire qu'on a intérêt à se faire entendre très fort, quand même.
Autour de, justement, de cette histoire de Agnès Buzyn qui parlait de la responsabilité en sa personne, puisque les mairies des hôpitaux ne voulaient pas prendre leur responsabilité, voilà, pour leur maintien.
La réalité, c'est que c'est plus la responsabilité, elle est plus morale que juridique. Que la réalité, c'est que personne ne finira en prison dans un cas comme dans l'autre. Enfin, qu'il y ait la maternité ou qu'il n'y ait pas de maternité. Donc, mais par contre, moralement, c'est vrai que c'est la ministre de la Santé la seule responsable de cet accident. Elle l'assume puisqu'elle a dit « Moi, je porte la responsabilité à la place des mères qui veulent maintenir leur maternité, etc. » Bon, ben, si elle-même parle de responsabilité, on la reprend au mot, mais on sait très bien que au final, elle veut faire des économies, elle veut fermer des services et qu'elle ferme des services, quoi.
Et justement, c'est d'où l'intérêt, tout l'intérêt de cette fédération, de ces collectifs, pour mieux se défendre par rapport à ce projet.
Je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces collectifs, les centaines de manifestations partout, les milliers de signatures en permanence, la pression permanente de la population, on n'aurait pas diminué par deux le nombre de maternités. On serait aujourd'hui déjà à l'étape du projet de Madame Buzyn, c'est de faire des maternités, 3000 accouchements. Donc quelques maternités, peut-être une par département et encore. Drôme Ardèche, on pourrait imaginer une maternité. Donc, et il n'y aurait plus de services publics hospitaliers quasiment dans aucun territoire. Madame Buzyn, elle dit qu'il faut que les Français soient à 30 minutes d'un médecin, pas d'un service public hospitalier, d'un médecin. Bon, après, il va falloir qu'elle travaille avec les médecins, parce que même là, ça va être difficile, mais elle ne parle même plus de services publics hospitaliers. Madame Buzyn veut tout privatiser, quoi. Donc, heureusement qu'il y a eu des manifestations, des gens dans la rue, parce que sinon, ils iraient encore beaucoup plus vite, quoi.
Une dernière question. Est-ce que vous proposez une alternative à cette politique, ou est-ce que vous y réfléchissez, du moins ?
Nous, on sait que... on a, s'il y avait une maternité et une chirurgie à 10, ce serait un minimum. À partir du moment où on a une maternité et une chirurgie qui fonctionnent avec les moyens humains et financiers nécessaires, après, on pourra commencer à discuter de comment on développe les accouchements physiologiques, à domicile, dans l'eau, toutes sortes d'approches différentes de l'accouchement. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui inventent des choses qui ont été inventées il y a déjà très longtemps dans ce domaine-là. Donc, mais si on n'a pas un minimum de sécurité, on peut toujours parler d'accouchement dans l'eau ou à la maison, etc. D'ailleurs, les sages-femmes nous ont transmis un courrier qu'elles envoient à la ministre, les sages-femmes libérales qui faisaient des accouchements à domicile, parce qu'elles ne savent plus quoi dire aujourd'hui aux parturientes qui souhaitent accoucher à domicile, alors Vercré ou autre. Mais aux parturientes du Diwa qu'elles suivent dans le Diwa, leur disent qu'est-ce qu'on fait en cas de problème. N'appelez pas le 15, ça ne fonctionne pas. N'appelez pas le 18, ça ne fonctionne pas. N'allez pas aux urgences de l'hôpital de 10, ça ne fonctionne pas. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Soit on reprend quelque chose ou pas. Donc, voilà, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que les maternités avec 3000 accouchements, il n'y a rien qui prouve qu'il y ait moins d'accidents dans ce genre de maternité. Il y a tout à penser qu'on va vers de l'accouchement programmé, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher et de plus sûr dans la tête de nos ministres. Donc, de l'accouchement programmé. Donc, c'est penser que l'accouchement est une maladie, en quelque sorte, et en programme, comme ça, on évite tous les problèmes. Enfin, tous les problèmes. On évite... on s'évite tout un tas de problèmes, administratifs, surtout. Voilà, ça, on ne pense pas que ça soit un projet de société qui plaise à grand monde, quoi.
Et puis peut-être aussi une concentration de personnes hospitalisées sont plus propices aussi à des maladies nosocomiales, par exemple.
Ben, c'est la personne avec qui on discutait en terrasse, une gynécologue, qui nous disait ça. Effectivement, une maternité qui concentre 3000 naissances, il y a plus de maladies nosocomiales, il y a plus de problèmes, il y a plus de problèmes de service, il y a plus de coûts, parce que, mine de rien, le coût n'est pas réduit. Et on l'a redit, mais dit et redit, aucune étude aujourd'hui n'existe en France pour dire que les petites maternités sont plus dangereuses que les grosses. Voilà, il n'existe pas d'études à ce sujet. Et pour finir sur ce sujet, d'ailleurs, il y a un communiqué, alors ça, qui doit être piloté par Madame Buzyn, de 21 médecins, 18 hommes, 3 femmes, qui préconisent la fermeture des petites maternités. C'est un communiqué absolument odieux et qui ne consiste qu'à étaler des arguments d'autorité, parce que ces gens-là sont forcément supérieurs à nous. Ils se prétendent d'ailleurs comme les seuls experts. Mais ils oublient que les experts de l'accouchement, ce sont les sages-femmes qui réalisent plus de 95% des accouchements sans problème. Ce sont les sages-femmes qui connaissent les femmes, qui connaissent les accouchements, qui connaissent tous les gestes. C'est aux sages-femmes qu'il faut parler, c'est aux sages-femmes qu'il faut redonner la parole. Voilà, laissons la parole aux sages-femmes. Ce serait une façon de remettre l'accouchement et l'acte physiologique au cœur des solutions.
Eh bien, Philippe Levenberg, merci de nous avoir donné un peu de temps pour annoncer cette marche qui aura lieu donc samedi 2 mars à 10 au départ de l'hôpital à 11h.
Merci Radio Diwa et à tous.
Bonne soirée, au revoir.
Meet me.